Amis de Radio Silence, bonjour. J'espère que cette émission sera brève. Je la souhaite brève. Et je commence, j'insiste sur le mot espérer. Parce que, figurez-vous, ce dimanche, j'ai fait un témoignage dans mon église. C'est un peu une tradition. Et parfois, c'est une obligation parce que lorsque vous avez vécu quelque chose d'exceptionnel ou d'incroyable ou d'inexplicable dans votre vie, c'est bien d'en parler parce qu'une fois qu'on en a parlé, après quelque chose de, comment on va dire ça, de mystérieux ou de grand peut jaillir comme cela par le biais de la parole du pasteur. Donc j'ai témoigné, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai quand même dit d'abord deux ou trois choses, ça c'est un rapport avec l'immigration, pour dire, et ce message s'adresse aussi à tous les sans-papiers de France qui m'écoutent, qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration noire, ou alors arabique, je ne sais pas, ici en France, mais là je parlais à un public quand même d'Africains, et je leur disais qu'en 1945, lors des guerres, déjà en 1918, nos pères sont venus ici combattre les soldats africains pour la liberté de la France et qu'ils étaient les dignes héritiers de leurs parents en vertu du sang versé par leurs parents pour la libération de la France. Et ensuite, je leur disais qu'il y a eu d'autres vagues, des vagues successives. Hein. En 1960, ceux qui sont venus reconstruire la France dans le cadre du plan Marshall. Et là aussi, ils sont les héritiers de cette reconstruction de la France qui est quand même quelque chose d'économique et qui, ils ont droit, eux aussi, de recevoir les dividendes de cette reconstruction. Ça, c'est pour fonder la légitimité des Africains en France, pas seulement dans le cadre... comment on dirait, de la francophonie, ça ne veut rien dire, mais dans un cadre plus historique, et plus, je ne veux pas dire géopolitique. Et ensuite, il y a les années 70. Les années 70, c'est plus des gens qui sont venus ici parce qu'ils rêvaient, comme cela, de la démocratie. On leur disait, aujourd'hui, le problème se pose, il faudra encore une longue émission, là, j'ai peur. La démocratie, on rêvait en Afrique de démocratie, on se disait en France, mais regardez à l'étranger, la démocratie, c'est extraordinaire. Et chez nous, en Afrique, il y a les tyrans. Et pourtant, dès les années 60 déjà, au sortir des indépendances, ce sont les anciens colons qui s'étaient organisés pour liquider tous les pères des indépendances, c'est-à-dire les anciens résistants, et mettre à la place des marionnettes. Donc, il y avait un double jeu, à la fois des ex-colons qui donnaient l'impression comme ça d'avoir libéré l'Afrique et que les chefs d'État étaient libres, alors qu'il y avait très bien une néocolonisation qui avait pris le relais, et de l'autre côté, les Africains naïfs qui pensaient que maintenant c'est la démocratie, on peut se présenter, on peut parler comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, la liberté d'expression, vous savez, toutes ces choses-là qui accompagnent le souffle et le vent de la révolution démocratique. Comme ça se passait pas, ils sont venus ici en exilés en se disant, bon, ils auront le secours de la France qui va les aider probablement à s'installer ou à changer l'Afrique, mais c'était un vœu pieux parce que qu'est-ce que la France a fait par la suite? Elle faisait des coups d'État. Certains, effectivement, ex-exilés, sont venus remplacer les présidents, mais c'était dans le cadre toujours du néocolonialisme. Et donc ces exilés qui venaient comme ça très fiers finissaient par rentrer comme des marionnettes aussi. Et ça encore, ça fait des déçus qui sont restés là, qui sont jamais rentrés. Puis les années 80, c'est ma génération. Nous, on est venus ici alors en intellectuel, parce qu'en 70, c'était plus des révolutionnaires et des syndicalistes. En 80, c'est vraiment la quintessence de tout ce qui se veut intellectuel qui s'est dit, bon, on va aller vraiment réformer le pays. Et en plus, là aussi, il y a un double jeu. Certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ont obtenu des bourses du pays pour venir faire ces études-là. Mais une fois ici, comme d'habitude, on nous a oubliés des deux côtés, du côté de l'Afrique, parce que, voilà, des gens comme nous, ça fait peur après. Trop d'instructions, c'est pas bien. Trop de débats, c'est pas bien. Trop de réflexions, c'est encore pire. Conscience politique, n'en parlons même pas. Vous êtes tout de suite banni. On vous bannit pas, mais voilà, c'est compliqué. Le retour est d'ailleurs, lequel retour est d'autant plus compliqué qu'il y a des pays qui continuent avec ce refus de la double nationalité et donc qui pénalisent les gens comme moi qui sont venus ici, qui sont bloqués. De ce côté, le double jeu est tel que on vous parlera de tout en Afrique, de lever tous les obstacles qui font barrage au retour, mais vous n'entendrez jamais parler de ces choses-là. Vous entendrez parler des petites choses comme on vous donne 2 000 euros, 6 000 euros, vous allez vous réinstaller, alors que ces gens-là, comme je l'ai rappelé dans le témoignage, en vertu du sang versé, en vertu de la reconstruction économique, en vertu de la France-Afrique, néocolonialisme, en vertu du mensonge qui a eu lieu, bon, on dira des deux côtés. Voilà, les immigrés ont une légitimité à être ici. Et ça, je le dis d'autant plus que j'entends, on peut constater, malheureusement, qu'au Mali, en ce moment, il y a des problèmes, que les Maliens, ils préfèrent venir ici au lieu de résister. Je ne sais pas à qui d'ailleurs ils résisteront, parce que là, ils vont résister soit aux djihadistes, soit aux Touaregs. Deux choses qui ont été créé par la colonisation et les décolonisations mal négociées, qui font que, si vrai, on peut toujours demander aux gens de rester sur place et de jouer les héros et les guerriers, mais ce n'est pas si simple. Encore faudrait-il savoir contre qui on se bat. On se bat contre l'armée française qui occupe, on se bat contre les Touaregs qui ont quand même des revendications à faire, et on se bat contre les djihadistes qui sont arrivés là parce que précisément l'OTAN, donc fait partie de l'armée française, a ouvert les vannes de la Libye et en les ouvrant de la façon la plus terroriste qui soit, on a eu en conséquence les djihadistes qui sont descendus vers le Mali, qui étaient protégés, le Mali et le Niger, par le colonel Kadhafi. Donc on a là des questions qui sont mal posée parce que on ne revient pas vraiment à la véritable histoire.
Bien-aimé, ne retiens pas le témoignage.
Alors, témoignage. Ce témoignage que je faisais, donc, a commencé par cela, ce que je vous ai dit, le rappel historique, pour fonder les sans-papiers et en quelque sorte leur dire que moi, étant docteur de mon état, je suis probablement plus sans-papiers qu'eux, parce que si je veux rentrer chez moi, on me dira que je suis française, j'ai pas le droit de venir. Et en restant en France, tous les blocages sont là, parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression en France. Et alors, on arrive à la question de la démocratie, à la question des alternances, des pseudo-alternances. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. On arrive à la question de la Chine. La Chine, elle a posé carrément un problème, pas un problème, elle a tranché dans le vif en disant « Bon, mais tant qu'à faire, quand on a un bon président, on va le garder parce que les élections, c'est tout magouille et compagnie. Au moins, on va pas faire des alternances pour avoir ces présidences qu'on a comme en France ou depuis le Giscard d'Estaing. Franchement, on n'a pas eu un vrai président qui soit libre et qui soit fort et qui soit grand. On a eu que des présidents comme cela, des petites présidences, des espèces de... laissons tomber, on va pas fâcher personne. Mais on voit bien que la France, depuis après Giscard, se passe presque plus rien du tout. On avait le Concorde, après le Concorde, il n'y a plus rien. Quelque chose, je parle des présidents qui impulsent, qui apportent le véritable développement, mais parce qu'il y a la magouille. Regardez, pensez seulement qu'en Allemagne, vous avez une dame qui venait de l'Est, qui se plaignait qu'il n'y avait pas de démocratie. Une fois qu'on a eu la démocratie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste au pouvoir. Et maintenant, on va s'entendre entre les deux extrêmes, la gauche et la droite, s'entendre pour remettre en place le parti unique. On fait une régression. Mais incroyable. Et on appelle ça la démocratie. On a vu en France comment ça s'est passé, ou pour faire passer, bon voilà, on va laisser tomber. Et ensuite, vous avez en Italie, où franchement, là, je suis contente, parce que quand on écrit, parfois, on s'est dit, oh, on a vu que finalement, au Vatican, pardon, je suis une radio catholique, on parle d'ethno-mathématiques en Afrique. Bon, ceux qui commentent ici dessus l'Afrique, alors que vraiment des analyses comme celle-ci qui peuvent que créer des racistes. Parce que c'est déjà des analyses racistes, et dont les gens, forcément, ils sont racistes parce que le peuple périt par ignorance. Il n'y a pas de débat, chacun écrit ce qu'il veut, et à force d'écrire ce qu'on veut, on écrit du n'importe quoi. Mais la Légion religieuse du Vatican, qu'est-ce qui en parle? On a vu là un documentaire que j'ai fait ressortir qui montre quand même qu'il y a un pape noir à côté du pape blanc et que c'est le pape noir dans le noir qui dirige tout parce qu'il fait partie de l'ordre des jésuites chargés, je sais pas quoi, d'un projet de gouvernement mondial. Cette Légion religieuse, c'est quoi? C'est de l'ethno-quoi religieuse? Je veux dire, ou c'est de la religiosité politique? Parce que le pape, on a beau dire, c'est un dirigeant spirituel, mais il est aussi politique. Et cette facette politique n'apparaît pas toujours. Or, il paraîtrait que ce serait le monarque du monde, donc soutenu par cette légion planquée derrière le Vatican. Mais quand on sort ces choses-là, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est quand même, il faut mettre dans le contexte. Quand on sort ces choses-là, on est content de voir qu'il y a des hommes qui écoutent en Italie, qui disent que mais Rome, ça peut pas être cela. Le projet de l'Église catholique, oui, c'était l'Église universelle pour tous, mais elle peut pas avancer avec une légion qui agit dans le noir. Non, elle doit avancer comme le Christ, parce qu'elle est du Christ, elle est christique cette religion, c'est son héritage, c'est son corps, elle doit avancer comme le Christ avançait dans la transparence. Voilà, on a donc ces choses-là qui viennent et qui font que, oui, les nationalistes, comme on dit, le populiste, quand on est vraiment dans les fake news, on appelle ça du populisme, c'est pas du populisme, c'est que les gens veulent qu'on revienne à la véritable démocratie, c'est-à-dire à des sociétés qui sont civilisées, à des sociétés, civilisées veut dire quoi, qu'il y a des valeurs, des principes qui sont qui ont été mis en place par tous, on est d'accord là-dessus, comme la loi, et il faut respecter cela. Celui qui ne respecte pas cela, il est responsable. Alors, je veux dire, on ne peut pas faire des reproches de démocratie à l'Afrique, alors qu'ici, on voit bien qu'on est dans une régression phénoménale. Ça, c'est déjà un. On peut toujours expliquer, les Africains ne sont pas mûrs, ils ont des questions d'ethnicité, tout cela. On voit bien que ces questions d'ethnicité se sont aggravées justement parce que la notion de l'État n'a pas eu le temps de prendre corps en Afrique. Et à chaque fois, elle est amputée par les interventions extérieures qui font que finalement les gens ont quoi comme repère identitaire, c'est de se replier sur l'ethnie. Mais ça, c'est un repli par défaut, faute de mieux. Alors on dira, oui, mais il n'y a pas que, c'est trop facile d'accuser soit la France, soit je ne sais pas qui, d'ingérence et puis de troubler un peu les choses. Oui! Oui, mais ça, c'est comme le président syrien a dit. On lui a demandé ce qu'il pensait de l'intervention américaine. Il a dit, bah, de toute façon, au final, il ne s'en prend pas tellement à l'Amérique parce que pour qu'on occupe un pays, pour qu'on déstabilise un pays, il faut qu'il y ait des traîtres de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là, et c'est à cette condition-là seulement que l'occupant peut gagner. Ça s'adresse aussi au Mali. Qui sont les traîtres de l'intérieur? Il faut voir cela. Et favoriser, travailler à l'unité nationale, au-delà et par-delà même l'occupation. C'est ce que l'Irak vient de faire. Le Parlement irakien a demandé à l'Amérique qui voulait rester parce qu'elle a créé les terroristes ISIS, Daesh et tout pour se dire oui, mais finalement on va rester parce que si on s'en va, ça va être pire. Non, le Parlement irakien a dit non, il faut partir parce que nous allons essayer de régler cela tout seul, et on verra ce que cela donne. Mais l'exemple de la Chine, là-dessus, est formidable. Est formidable. Il règle le problème une fois pour toutes. Il y a un bon président. Et bon, le garde, tant qu'à faire cette farce électorale, on ne la fait plus. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à tout ce qui s'est passé en Occident depuis l'après.
Il est senti dit au mot, libre et vainqueur. Nous fléchira, toutes les langues confessera que Jésus est Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, il est Seigneur, oh yes, il est sanctifié. toutes les langues t'ont fait serrer, et Jésus est Seigneur. Emmanuel, yes, Seigneur, il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Nous fléchira, toutes les langues confessera, et Jésus est Seigneur.
Donc, démocratie, démocratie, depuis Pompidou, après Pompidou, ça c'est les années, je ne sais plus, Mitterrand, jusqu'à répartir les années 80. Donc depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, les élections sont magouillées. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit beaucoup d'injustices hein, qui sont pas réglées. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus ? Ça, on revient au président Assad qui disait que l'Occident n'a plus de valeur parce qu'il recevait un journaliste, du Fox News, et qui lui disait, on dit, vous faites ci, on dit, mais tout cela n'a plus de valeur. Les Amnesty International fait des rapports, bien sûr, qui sont payés par qui, voilà. Tout est biaisé, il n'y a plus de valeur. Et comme il n'y a plus de valeur, ben, l'Occident est disqualifié. Il est disqualifié parce qu'il a reconduit quelque chose qu'on appelle la propagande. Voilà, la propagande, ça c'était... Vous savez, quand il y avait la guerre, hein, la propagande, oui, la propagande nazie, on prend toujours exemple sur celle-là, qui était très bien mise en scène, où la mise en scène était achevée. Et la propagande, elle emprunte combien de voix ? Parce que ça aussi, c'est important. Elle emprunte d'abord la voix, et c'est important parce que ça explique pourquoi des gens comme moi, on est bloqués en France. On a le peuple élu. La notion de peuple élu, c'est une notion biblique qui est honorable. Mais elle pose beaucoup de problèmes en termes démocratiques, elle pose beaucoup de problèmes en termes de justice sociale, elle pose beaucoup de problèmes en termes de gestion des ressources humaines, et elle pose d'ailleurs beaucoup de problèmes en termes de rapport humain où on conçoit toujours les choses entre dominants et dominés, les dominants étant faisant partie du peuple élu. Dans le peuple élu, vous avez tout ce qui est race aryane, c'était toujours un volet, voilà, du peuple élu. Vous avez tout ce qui est d'essence divine, forcément la papauté, qui est légitime, à plus d'un titre, et puis les monarchies. Donc les monarchies, en raison de cette matrice-là de peuple élu, les monarchies, la papauté et le peuple élu biblique, vous voyez un peu, plus la race aryane, sont fondés à être les dominants et les autres sont des dominés. Ça crée des problèmes quasiment insurmontables sur tous les plans. Et tout cela, la notion de peuple élu est contradictoire avec l'idée démocratique et l'idée de la liberté individuelle. Et c'est un souci. C'est un souci parce que si ce sont eux en même temps, le peuple élu, vous voyez, de peuple élu, on arrive à l'élite. Donc l'élite qui a décidé, par exemple, qu'on était sexuellement majeur à 15 ans, alors que la loi vous dit que vous êtes majeur à 18 ans, il y a une contradiction fondamentale et un non-sens que personne ne voit, mais comme c'est le peuple élu et l'élite... La noblesse d'État qui a pris la suite, vous allez dire quoi ? Il n'y a pas moyen de contester. Peut-être d'aller voir le Conseil constitutionnel. Je ne sais plus si on peut saisir le Conseil constitutionnel de cette façon-là. C'est très compliqué. Parce que dans la propagande, vous avez aussi la propagande institutionnelle. Donc il n'y a pas seulement la propagande qui emprunte du peuple élu. Il y a la propagande institutionnelle, mais là, c'est carrément la force qui est mise en jeu. Et puis, il y a celle des fake news. Les fake news étant plus l'institution, plus, vous voyez, c'est un étage, hein, 5000 feuilles, plus le peuple élu. Il s'entend toujours pour tenir un discours guerrier qui propage la guerre et qui justifie la guerre pratiquement comme étant une nécessité. Bon, ça fausse complètement l'idée même de démocratie, ça fausse les valeurs. Là-dessus, on peut toujours accuser les Africains d'être des fainéants, d'être des faibles, mais les choses sont parfois un peu plus compliquées que cela. Et je vais terminer alors par mon témoignage encore. Mon témoignage qui s'est terminé par ce qui m'est arrivé récemment encore à l'aéroport de Saint-Ex. Et là, j'ai enregistré, et puis au moment de monter dans l'avion, parce que j'étais au duty free, juste en bas là, ils me voyaient, et ils ont fermé, ils ont dit que j'ai entendu dernier appel, embarquement immédiat, alors qu'il n'y avait jamais eu d'appel auparavant, les passagers de Londres, etc. Montez, il faut tout de suite. Bon, pas tout de suite, dernier appel, je suis en train de payer. Oh, c'est je... Bon, et je monte. Et la porte, le policier, le douanier me dit, non, le pilote m'a appelé, m'a dit, le vol est fermé, je ne peux pas vous laisser passer. Évidemment, il n'y avait personne, ni hôtesse. Bon, il y a une hôtesse qui m'a fait passer, mais elle était là pour un autre vol. Elle m'a dit, passez vite en priorité, vite, 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 allez-y. Pour elle, c'était encore bon, mais pour le douanier, c'était plus bon. Donc, j'ai suspecté encore toute cette magouille-là et compagnie qui n'arrête pas en ce qui me concerne. Et donc, comment vous dire, quand vous a fait le coup, quand la première fois ça m'est arrivé, je me suis dit c'était probablement de ma faute, mais quand ça arrive une seconde fois, comment un pilote peut laisser un passager qui est déjà dans la zone internationale, qui arrive, qui est enregistré, parce que le premier truc que vous faites, vous êtes enregistré. Il fut un temps quand moi je voyageais avant que le peuple élu ne prenne le pouvoir de certaines choses. On appelait parfois les passagers par leur nom, on leur disait « Passager tel, vous êtes attendu, porte-temps, vous venez tout de suite. » Et ce duty free, qui était juste là en bas, où il me contrôlait, il voyait tout, parce qu'après les pubs reprenaient, c'est facile, a tout fait pour me traîner là, je ne peux pas vous expliquer. Laissons tomber. Et quand je monte et que ce vol est fermé, il n'y a personne. Il faut partir, il faut se démerder. Et pendant que je traîne là, je vais dire je erre, je ne sais pas comment on dit gère ou je erre, je ne sais plus. Et c'est là qu'il y a une hôtesse qui descend, oui, Madame Mbok, ah tiens, on connaît mon nom. Et elle me dit, oui, on a débarqué votre colis. Ça faisait déjà peut-être un quart d'heure que je tournais là en rond, comme, voilà, en me posant des questions, en me disant, mais ce n'est pas possible que ces choses-là arrivent. Je suis juste là, ils me voient, ils n'ont jamais appelé cet avion. Ils disent dernier appel. En 2 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Les passagers ont couru ou alors est-ce qu'il n'est pas au fur et à mesure? Je ne peux pas vous expliquer, mais bref, j'ai fait ce témoignage en disant qu'on m'a débarqué l'avion parce que c'est cela. Elle me dit oui, mais on ne vous a pas vu. Non, elle a dit que c'est. Ben, si mon vieux ne peut pas dire, elle dit oui, mais on a débarqué votre colis. Il faut descendre, aller en bas. On va vous trouver une solution pour repartir et tout et tout. Alors je me suis dit, mais si on a pu descendre mon colis, et pourquoi on ne m'a pas embarqué? L'avion était là, je le voyais. Pourquoi on ne m'a pas embarqué? On peut descendre mon colis, il faut aller à la soute, rechercher toutes ces choses-là. Alors, je suis redescendu, ils m'ont traîné en bateau de partout, partout, bilan. Une fois que j'étais sorti de la zone internationale, et c'est là où je me suis fait avoir, il n'y avait plus de solution. Plus personne ne pouvait m'aider, démerdez, prenez votre colis et puis cassez-vous.
Sorti du tombeau, libre et vainqueur. Ouais, tout genou fléchira, tout élan de ton fait sera. Yeah.
Mama, Yahweh, qu'est-ce qu'on fait entre Yahweh? C'est pour cela que je vous ai mis ces chansons-là qui vous parlent humilié sur la croix pour moi, flagellé sur la croix pour moi. Et Yahweh, il croit qu'il m'humilie, il s'humilie eux-mêmes. C'est tellement, c'est d'un ridicule que ça en est pathétique. Donc, c'est ça, c'est le genre de personne qui vous donne des leçons sur la civilisation. Je veux dire, même sur le plan humain. Même sur le plan humain, l'hôtesse qui sait venir me dire « on a débarqué votre colis, blablabla », elle aurait pu, si elle était une personne humaine, appeler « passager, tant, vous êtes attendu, tant, tout de suite, l'avion va pas ». Je veux dire, ces choses-là se sont toujours faites, et même il y a eu des avions qui sont allés en retard parce qu'on attendait des passagers. Je veux dire, on est dans un monde... Franchement, c'est triste de voir que les êtres humains sont devenus cela parce qu'ils sont asservis, parce qu'ils sont sous la coupe des faux médias, là, qui sont en fait une armée invisible, parce qu'ils sont sous la coupe de l'esbrouffe institutionnelle, parce qu'ils sont sous la coupe d'un peuple prétendument élu qui se comporte en gangster. Il y a toute une... logique maintenant, une philosophie des humanités qui a disparu, la sensibilité, l'amour du prochain, c'est dire quand même non, les gens n'ont plus de morale, ils n'ont plus de cœur, ils n'ont rien, c'est des serpents tout le monde. Et cette race serpentine qui serpente le monde, c'est triste. Alors moi, quand je fais ce témoignage, je m'attends pas vraiment à ce que le pasteur réagisse. Je le dis parce que à la fois du dégoût et à la fois même de la pitié. Vous rendez compte, moi je finis par avoir pitié de ce pilote, je finis par avoir pitié de ces hôtesses, je finis par avoir pitié de la vendeuse du duty free qui a foué, je sais pas quoi, elle a fait tout pour me traîner du maximum possible, et même jusque là j'avais encore du temps. C'est après que j'ai compris, mais j'avais pas compris tout de suite, elle jouait la gentille. Et puis c'est ma faute aussi, parce que je dois me méfier. Il faut tracer tout droit, faire comme les serpents, par la personne, elle est gentille avec personne, on n'achète rien, on tout droit, on voyage, on s'en va. C'est le nouveau monde, que si vous voulez, il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus de relations humaines, il n'y a que l'intérêt. Et la méchanceté, bien sûr. Donc, quand j'ai dit cela, j'étais soulagée aussi de le dire. Et toute la salle a trouvé que, franchement, c'était petit. Et ils m'ont pas pris en pitié, parce que je fais pas pitié, moi. J'ai pas besoin de la pitié. J'ai toujours dit, et je crois que lorsque vous êtes seul, c'est au moment où vous êtes justement seul, c'est à ce moment-là que vous êtes plus près du Christ, hein, et du mystère. Oui, il faut le comprendre, ça. Mais ça, c'est, on pense toujours à la solitude de celui qui est engagé dans un combat. Non, on n'est pas seul. C'est justement, il faut cette solitude-là, il faut que tout le monde vous abandonne, que certains pensent même qu'ils peuvent vous humilier. Et c'est là que vous allez voir la force, le mystère. Vous allez comprendre ce mystère-là, parce qu'il va habiter en vous, et des choses, des révélations vont se faire, spectaculaires. Et... le pasteur a dit une chose, il nous a dit, bon, quand j'ai dit cela, je crois qu'il avait prévu autre chose. Et d'ailleurs, lui-même, il avait un témoignage extraordinaire. Ça tombait bien. Il a vu passer la mort, hein, voilà, parce qu'il allait à l'hôpital, à quatre pattes, bien sûr. On lui a dit qu'il n'avait rien. Il est ressorti. Une fois arrivé chez lui, il sentait qu'il allait mourir carrément. Il a dit à sa femme, rappelle le SAMU, s'ils peuvent venir, mais là, je sens que je vais mourir. Heureusement, le SAMU est venu, on l'a ramené, et on s'est rendu compte que l'appendicite avait explosé dans le ventre. C'était 50-50, soit il vit, soit il ne vit pas. Donc, il remerciait lui-même déjà le Seigneur d'être en vie et en bonne santé, et que ça n'avait pas de prix. et surtout de suivre sa voie, quoi qu'il arrive, parce que il a enchaîné là-dessus et je vais terminer là-dessus. J'ai dit, j'allais pas être longue. Oh là là. Donc il faut espérer contre toute espérance. Donc il nous a fait lire le livre des Romains, chapitre 4, verset 18 au verset 21. Donc, espérer contre toute espérance. Ça, c'est fort, ça m'a parlé. Ça veut dire que quand il vous arrive, tout ce qui vous arrivera, ce n'est pas le fait du démon ou du diable. C'est Dieu qui permet que cela vous arrive. Donc, c'est pour cela qu'on disait que ceux qui ont les yeux voient et ceux qui ont les oreilles entendent. Parfois, vous ne le voyez pas tout de suite, mais après, vous pouvez le voir ou le comprendre. Il a dit... Laissez Satan croire qu'il vous humilie. Mais à la fin, il comprendra qu'il s'est humilié tout seul. Et il faut espérer, parce qu'il a pris l'exemple d'Abraham, qui, contre toute espérance, a donc eu ses enfants-là. Mais en fait, la symbolique des enfants d'Abraham va au-delà des enfants. C'est toute la postérité qui arrive après, qui est d'Abraham. C'est pas seulement Ismaël et Isaac dans ce réductionnisme de la pensée qu'on nous donne toujours. C'est comme Jésus, quand il arrive, la notion même de peuple élu, la notion même de monarchie, de divinité, ça n'a plus cours parce que Jésus arrive, il rétablit un temps nouveau, c'est le temps de l'histoire, ce n'est plus la préhistoire et on vit toujours dans la préhistoire. On essaye de plaquer. Je ne sais pas si c'est la préhistoire sur l'histoire ou l'inverse. Et ce pasteur, en disant ces choses, il dit « Il faut avoir la foi contre toute espérance. Il faut savoir que tout concourt au bien de ceux qui croient au Seigneur. Il faut savoir... » Je veux dire, après, il a déroulé, par exemple, Abraham. Il avait trois grâces, une grâce prophétique, une grâce de guerrier et une grâce d'homme d'affaires. Donc, vous pouvez avoir plusieurs grâces en vous que vous allez développer. C'est pas contradictoire. Bon, encore faut-il que le peuple élu vous en... Comment je veux dire, vous laisse déployer cela. Je veux dire, dès qu'on écho cette définition de la foi qui est une foi, une ferme assurance dans Hébreux 11:1, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comment dire, c'est comme si vous aviez la foi. Comme ce grain de senevé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle s'enlèverait. Ça veut dire que, quels que soient les obstacles, premièrement, les obstacles, ce sont des épreuves. Il ne faut pas prendre cela comme si vous aviez fait quelque chose de mal et que Dieu vous punissait pour cela, et donc il y a des sorciers. Non, il n'y a pas de sorciers. Ce sont des épreuves. Et après la pluie, vient le beau temps. Comme la Genèse le dit, il y eut une nuit et il y eut un jour. Donc, je ne vais pas prêcher, ce n'est pas le lieu, et puis je ne suis pas formée pour cela. Mais ça fait plaisir de témoigner et de voir qu'un pasteur reçoit cela et qu'il vous renvoie comme cela du baume au cœur, la paix, la compréhension, la sagesse, la douceur. Prenez mon joug, il est doux.
Yesu te isungira ngai